À voix nue. Cette semaine, Belinda la rencontre Denis Podalydès. Ce soir, prof ou acteur, les années de formation.
Bonsoir Denis Podalydès.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons évoqué votre enfance à Versailles, votre famille, votre habitus, votre goût prononcé pour la lecture, ces grandes allées du jardin de Versailles, le jardin de la votre grand-mère. Nous parlerons ce soir de vos années de formation. Alors, elles commencent en Hippocagne, puis Cagnes. Vous préparez Normale Sup. Vous avez à peine 20 ans. Que voulez-vous faire de votre vie, Denis Podalydès, à ce moment-là?
À ce moment-là, je veux être professeur. Le rêve d'être acteur n'est qu'un rêve. Ou, si je fais quelque chose, ça sera avec mon frère. Et là, mon frère, lui, à ce moment-là, il est aussi dans...
Votre frère Bruno.
Il fait des études, et il est en biologie, mais le cinéma l'attire de plus en plus. Et lui, je sais qu'il peut s'en donner les moyens. Alors que moi, je ne songe même pas à entrer dans une école de théâtre. Il y en a une pourtant au Théâtre Montansier.
À Versailles.
Voilà. Et pour moi, le théâtre est lié à l'école, toujours. Et en même temps, ce sont des tiraillements, parce que je sais que c'est dans ces années-là, j'écris à Jean-Louis Barrault une lettre. C'est les années où je vais le dimanche, parfois, à Paris, avec une sorte de sainte... appréhension, je vais l'espionner au théâtre d'Orsay, puis au théâtre du Rond-Point. J'écris des pièces.
Vous l'espionnez parce qu'en secret, vous rêvez de le rencontrer, de travailler avec lui.
C'est ça. En fait, je connais tout sur Jean-Louis Barrault, donc comme j'ai lu ses biographies, comme il a rencontré Charles Dullin, en fait, je lui ai écrit la même lettre que lui avait écrite à Charles Dullin. J'aimerais qu'il me remarque, en fait. Je me dis, si je hante le lieu, au bout d'un moment, peut-être que il va me dire, et toi, petit gars, est-ce que tu veux pas venir? Voilà, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça.
Est-ce que c'est un lien avec votre fascination pour Jean-Louis Barrault, ou est-ce que c'est un lien avec votre désir de théâtre?
Ah oui, oui, oui. Mais le désir de théâtre est tellement nourri d'imagination complètement débridée et romanesque, donc j'arrive pas à y croire. Je charge trop ce rêve-là pour moi-même y croire complètement. Donc je suis partagé, en fait, entre une propension à idéaliser tout ça et j'attends que quelqu'un vienne me prendre par la main, en fait.
Si vous devenez enseignant, vous voulez enseigner quoi?
Les lettres ou la philo. J'étais ouvert aux deux. Et la philo me semblait encore plus prestigieux que les lettres. Et puis j'avais eu ce prof en Hippocagne. Ça, c'est vraiment lié autour de l'Hippocagne. De toute façon, c'était dans les lettres. C'était sûr que je voulais essayer de Normale Sup. Ça, j'étais sûr de ça. Je voulais pas quitter cette voie-là. Et je refais du théâtre avec mes élèves. Le théâtre ferait partie toujours de la vie scolaire. Voilà.
Donc vous faites une Hippocagne à Versailles, non?
Alors, il y a une Hippocagne, oui, au lycée La Bruyère à Versailles.
Et ensuite?
Je rentre en Cagne au lycée Fénelon. C'est une amie qui y allait, qui était dans ma classe et qui allait au lycée Fénelon et qui m'a dit c'est meilleur qu'à Versailles. Commençait à venir l'idée que Versailles c'était fini. Il fallait s'en aller de Versailles. À un moment donné, l'espace classique et protégé, ça, c'était irréel. Ça n'était pas le monde.
Il fallait vous extirper de ça pour arriver...
Et finalement, je mets des années à en partir véritablement. Parce que c'est qu'à 26 ans que j'ai vraiment quitté Versailles.
Donc vous faites Fénelon pour une première Cagne?
Première Cagne, et puis là j'étais admissible à l'ENS en fin de première année, donc ce qui me semblait inespéré. Et en même temps j'ai fait du théâtre dans cette année-là. Je suis admissible, donc je rentre en deuxième Cagne, à Henri IV. Je suis pensionnaire. Et c'est là où j'ai un ami qui me parle du cours Florent, la classe libre du cours Florent. C'était un type qui était très très dur dans ses jugements littéraires, dans toute forme de jugement. Et qui a été un mentor pour trois ou quatre. J'ai un ami, Emmanuel Bourdieu, qui a fait un très beau film consacré à l'influence de ce garçon qui s'appelle Les Amitiés Maléfiques. Mais ce garçon, je lui dois énormément, parce que, et il me dit, il faut que, après avoir vu donc un spectacle qu'on fait au lycée Fénelon, parce que j'avais gardé le club théâtre du lycée Fénelon, et il m'a dit, tu dois entrer au conservatoire. Pour ce faire, il faut avant que tu entres à la classe libre du cours Flan. Ce dont j'avais jamais entendu parler à ce moment-là. Et donc, avec des amis du club théâtre, je me suis inscrit à la classe libre et je suis entré dans cette classe libre qui m'a ensuite permis d'entrer au conservatoire. Et donc là, c'est une bascule. Mais en fait, j'attends, il me fallait ça. Il me fallait quelqu'un d'influent, me prenne par la main et me dise, voilà, tu dois faire ceci et cela. Seul, je crois que je me serais abîmé dans des rêveries sans fin.
Mais pour autant, vous faites une troisième cagne?
Je fais une troisième cage parce que je tiens absolument à entrer en normal sup. Là aussi, c'est aussi par là, c'est pas simplement des rêveries. C'est parce que le climat chez moi est très dur. Mes parents sont en pleine séparation, ils vont mettre 10 ans à divorcer, et donc il y a un climat qui est extrêmement dur. Et j'ai envie d'échapper à ça. Mes parents me donnent peu d'argent de poche, et donc je me dis en intégrant. Je vais avoir une turne et je vais avoir un salaire.
Mmh. Donc, parce que quand on est normalien, on reçoit une rétribution.
Voilà, rétribution. Mais alors, on me disait, mais après, il faut que tu deviennes prof. Et là, quand même, avec évidemment le cours Florent, l'idée que je bascule complètement et devient de plus en plus obsédante.
Et alors, au cours Florent, vous êtes un intellectuel.
Oui, c'est ça, oui.
En Cannes, vous êtes un acteur.
Ouais.
Il y a une forme d'inconfort dans cet entre-deux, ça vous va ?
Inconfort et confort, c'est-à-dire que en même temps, il y avait c'est François Regnault qui m'avait dit, en fait, tu voulais être le meilleur acteur parmi les étudiants, le meilleur étudiant, le meilleur intellectuel parmi les... Voilà, d'être une forme, comment être, essayer d'être quand même le meilleur. Je retardais, je me disais, je voulais que les choses décident pour moi, en fait. Je suis très admiratif des gens qui prennent en main leur destin, parce que moi, j'ai l'impression que j'attendais toujours des événements, des faits ou des personnes. Je me sentais comme une quille dans laquelle il fallait envoyer une bille pour la faire tomber d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression que je tergiversais avec tout.
Alors, vous ratez la rue d'Ulm, mais vous réussissez
le conservatoire.
Le concours du Conservatoire National. Vous vouliez enseigner, vous serez acteur. Vous vouliez être acteur, vous n'en savez pas, enfin bon, on ne sait plus. En tout cas, vous devenez acteur, vous êtes acteur, vous vous lancez dans ces études au Conservatoire National et vous rencontrez, vous le disiez, Eric Elmos-Nino, Michel Villermoz,
oui.
Entre autres, des gens que vous retrouverez plus tard dans des films à la Comédie-Française pour Michel Villermoz. Et vous suivez les enseignements de Michel Bouquet et de Jean-Pierre Vincent.
Oui.
De professeurs qui auront sur votre vie d'artiste, on peut employer les grands mots, une importance considérable. Vous dites que vous vous êtes volontiers laissé impressionner par vos professeurs. Pourquoi volontiers ?
Volontiers parce que j'aimais énormément sacrifier à l'admiration. L'admiration est un sentiment que je connais bien et qui m'est précieux. J'aime admirer, j'aime regarder d'en bas. Oui, j'ai aimé, j'aime toujours admirer mon frère. Je l'admire de plus en plus, d'ailleurs. J'ai été confondu avec lui, je me confondais avec lui, je me fondais en lui, et maintenant, je découvre à chaque film sa part autonome, et ça m'émeut particulièrement. C'est comme quand on voit chez un enfant en quoi il est différent de vous, en quoi, soudain, votre enfant vous surprend complètement, puis vous dites, mais d'où il tient ça ?
C'est-à-dire que vous découvrez l'altérité avec votre frère à votre âge ?
Oui, encore de plus en plus, encore maintenant, ouais. Donc, oui, et arrivant au conservatoire, la première année, j'ai une femme admirable, Viviane Théophilides, dont le nom me ressemblait, ça me réconfortait, elle s'appelait Théophilides, mais plutôt Dolides, je me disais, bon, on devrait bien s'entendre. Et effectivement, je l'aimais beaucoup, mais j'étais encore beaucoup trop immature, benêt un peu. Il y avait Valérie Dréville qui était dans ma classe, et quand je vois ce qu'elle faisait, déjà, on était dans des mondes complètement séparés. Enfin, moi, j'étais à la maternelle et elle, je me rappelle un jour, elle nous a dit qu'elle venait pas au cours parce qu'elle répétait avec Tonio. Et je lui dis, mais Tonio, c'est qui Tonio? Elle me dit, c'est Antoine Vitesse. Elle allait jouer dans Le Soulier de Satin.
Avec Antoine Vitesse.
Avec Antoine Vitesse. Donc, vous voyez là, je m'étais dit, ah oui, d'accord. Bon, on n'est pas tout à fait dans le même
Tonio.
Monde. Elle était déjà immense actrice d'ailleurs. Et donc, il y a eu elle, et puis Bouquet. Alors, Bouquet, c'était évidemment... comme le cinéma avait une part énorme dans notre, aussi dans notre éducation, Bruno et à moi, on avait vu quantité de films, et mon père aimait bien les films avec Michel Bouquet. Et donc, on en avait regardé pas mal, notamment les Chabrol, La Femme Infidèle, c'était un personnage qu'on aimait craindre aussi, mais qu'on aimait retrouver à l'écran. Et donc, j'ai aimé le craindre aussi en tant que professeur, et j'ai aimé le voir en chair et en os, et j'ai aimé l'écouter. Lui, ce qu'il nous inculquait, c'était, la dimension absolument sacrée et inaccessible des grands auteurs. Et il essayait d'ailleurs de détruire dans notre esprit le culte du metteur en scène.
Puisque lui, il n'avait pas du tout. Dans le théâtre, à un moment où les metteurs en scène
explosent.
Enfin, où le théâtre français reconnaît les metteurs en scène. Lui n'était pas de cette école-là.
Ah non, pas du tout. Et pourtant, il avait été formé par Jean Villard. Mais Jean Villard, il ne le percevait pas comme un grand metteur en scène. Il le percevait comme un homme de troupe, un grand régisseur. Villard ne se disait jamais metteur en scène, il se disait régisseur, même si en fait c'était tout simplement un grand metteur en scène, mais les acteurs le voyaient moins comme ça que comme une éminence, mais ils ne lui reconnaissaient pas un art autonome de metteur en scène. L'autonomie du metteur en scène, elle naît en France, je crois, dans les années 70-80. C'est là où la France, alors que les pays comme l'Allemagne ou la Russie, le grand metteur en scène est
ex-cathédra
est déjà aussi reconnu au même titre qu'un grand auteur. Alors qu'en France, c'est très très tardif, même s'il y a eu Jouvet, Dulin, Batty, etc. Donc oui, moi, à la même époque, il y a Chéreau, Streller, on peut voir La Salle et Jean-Pierre Vincent.
Ouais.
Et Jean-Pierre, dont j'ai vu dans ces années-là des spectacles qui m'ont totalement ébloui. Je repense à Jean-Pierre, s'est éteint il y a très peu de temps. Et j'ai beaucoup repensé à tout ce qu'il m'a apporté. Une espèce de lucidité dans le... Quand je pense à lui, je vois son regard extrêmement acéré et une parole mordante aussi. Et une façon de jamais se payer de mots. Moi, qui avais vécu un peu le théâtre, une sorte d'idéal classique, Claudel, Jean-Louis Barrault, quelque chose d'un peu passéiste, là, il y a une modernité du regard, une acuité et un sens critique du théâtre. Notamment dans les travaux qu'il nous a fait faire sur Musset, où il a complètement arraché Musset à une gangue romantique académique, et au contraire, en restituant la névralgie, la jeunesse tourmentée, malheureuse, et pas du tout dans le côté sucré, ça m'a donné un sens du théâtre extrêmement concret et un souci de, un souci lucide du théâtre, de pas voir le théâtre comme une sorte de monde purement onirique.
Il aimait restituer les personnages dans leur contexte.
Oui.
Et il vous encourageait à étudier, à enquêter.
Énormément. À enquêter.
Ça, oui. D'une certaine façon, c'était un moyen pour vous de faire se retrouver votre penchant académique.
Exactement. Et devant lui, devant Jean-Pierre, c'est une chose que je lui reconnaissais, jamais il n'a suspecté mon côté intellectuel. Alors que j'avais eu un peu ça, même de manière très, très amicale. Mais
Michel Bouquet
se méfiait des intellectuels. Je me rappelle quand je disais que j'étais en Cagne avec Raymond Acoviva, qui était mon professeur au cours Florent, il y avait aussi un certain... pas une suspicion, mais il y avait un recul. En fait, ça ne valorisait pas l'acteur que j'étais, en tout cas. Or, avec
Jean-Pierre, vous extirpez de votre monde cérébral.
Ah oui, mais
vous
Bouquet
emmenez
m'avait
vers la
dit
chair.
Ce que t'as dans la tête, il faut que ça descende dans la chair. Ça, le mois et les années que j'ai eu à essayer de comprendre cette phrase, à l'intérioriser, à la dire, comment on fait descendre quelque chose dans la chair? Comment je réalise ça, moi? Je n'avais aucune idée de ça. C'est quoi? Faut que je fasse du sport? Faut que je fasse de la danse? Faut que je me saoule.
Vous avez essayé tout ça?
La débauche. C'est assez avec Eric Elmosino, Patrick Pinot, c'était les deux. J'ai essayé ça, des nuits de saoulerie comme ça, mais moi je tombais malade, je tenais pas la route. Enfin, j'étais dans un état et j'ai du mal en quoi mon art serait enrichi. Mais ça, c'était le côté Musset, le côté autodestructeur, parce qu'il y avait des tas de figures poétiques de de star rock, vous voyez, qui était très dans l'autodestruction. Ça m'a, moi qui avais toujours eu le sentiment d'être né dans un univers beaucoup trop privilégié, protégé.
Jim Morrison, c'était pas.
Oui, mais pas ça, pour vous. Ça faisait rêver. Tout ce qui était à l'opposé de moi, de toute façon, par nature, ce qui me contredisait ou ce qui me niait, c'était beaucoup plus intéressant que ce qui était comme moi.
Et pour autant, l'enseignement de Jean-Pierre Vincent qui résonne davantage avec ce que vous êtes et ce que vous avez appris, vous l'aimez, vous l'appréciez, ça vous fait grandir.
Me fait grandir, oui.
Vous aimez décortiquer les types sociaux, vous aimez aller convoquer l'histoire, la philosophie pour construire vos personnages. Donc, vous ne vous éloignez pas tant que cela de vous.
Non, mais la pratique du théâtre avant Jean-Pierre Vincent est une pratique un peu magique. J'ai l'impression qu'il faut que je plonge dans un bain d'eau froide, que j'oublie tout et que je me laisse aller à une espèce de transe. Enfin, les moyens de progresser sont mystérieux. Peut-être à ce moment-là, je crois trop encore, on a du talent, on n'a pas de talent. C'est des espèces de hantises un peu binaires que peuvent avoir les jeunes acteurs. Est-ce que je suis doué ou est-ce que je suis pas doué? Est-ce que je suis drôle ou je suis pas drôle? Est-ce que je suis tragique ou comique, etc. Qui sont des souvent... c'est tellement manichéen que ça n'aide pas du tout, mais néanmoins ça n'empêche pas des jeunes acteurs d'être littéralement mangés par ce genre d'interrogation.
C'était votre cas ?
Bah oui, je m'étais un peu monté le bourrichon tout seul comme ça, tandis qu'avec Jean-Pierre, c'était du travail, tout était question de temps. Le talent, on s'en fout. Le talent, on en a, on n'en a pas, peu importe. C'est bien si on en a un peu quand même, mais c'est pas avec ça qu'on travaille. On travaille avec sa tête. Et alors, on lit, on décortique, on réfléchit, on s'intéresse aux autres spectacles, on va voir des spectacles, on va voir des films, on lit des livres, on se documente, on s'intéresse à la politique, on partage des idées politiques, ou non, on s'engueule. Toute cette vie-là, qui était un peu un héritage de 68, mais un héritage, à mon avis, dont j'avais pas mesuré la vitalité, en fait. Pour moi, mes 68, c'était lié aux querelles entre mes parents.
J'ai souvenir. Petit enfant déjà.
J'étais petit, oui, 68, j'avais 5 ans. Hein. Et j'ai souvenir très angoissant d'entendre les mots Gay-Lussac, cocktail Molotov, quartier latin, Saint-Michel. Et c'était sujet de crise entre mes parents. Bah, du fait qu'ils n'étaient pas d'accord. Forcément.
Milieu différent.
Une politisation, c'est aussi une polarisation. Et ma grand-mère aussi était très politisée. Mmh. Dans le sens, c'était hyper gaulliste. Ma grand-mère catholique droite, j'aurais dit catholique droite sociale un peu. Et du côté de mes grands-parents paternels, mon grand-père paternel, enfin qui était le second mari de ma grand-mère en fait, qui s'appelait pas Podalydès, il s'appelait Mickaël, il disait Minute. Je me rappelle enfant de me dire qu'est-ce que c'est ce journal. Et ma mère qui balayait la chose, qui je sentais qu'elle s'assombrissait quand elle voyait ce journal posé comme ça sur le bureau de son beau-père. Et quand j'ai compris ce que c'était, Minute, je me disais, ouh là là. Et mon grand-père, si on nommait De Gaulle, il quittait la table. Donc ce Mickaël. Donc l'Algérie française, c'était très très présent. Et mon père avait adoré ce beau-père. Et donc, parfois, j'avais l'impression que mon père intériorisait des choses qui venaient directement de Minute.
Validé.
Ça me faisait peur. En fait, mon père n'était pas comme ça. Mon père était plus giscardien, en fait. Il avait le goût de la paix et le goût d'une certaine discrétion politique. D'une discrétion tout court. Donc, il y avait dans l'extrême droite quelque chose de trop violent. Mon père aspirait à une tranquillité bourgeoise où l'argent est là, mais on n'en parle pas. Mais donc il y avait des discussions politiques très ardentes. Ma mère était très fascinée par mai 68.
Et vous êtes un étudiant
très fasciné aussi,
politisé,
très intéressé en tout cas. J'ai eu beaucoup de mal à être militant, mais quand même, j'allais dans la rue en 86 de Vaquet, et je m'intéressais énormément. Bruno l'était beaucoup plus que moi. Je me rappelle une grande discussion où Bruno, d'un coup, ne voulait plus boire de Coca-Cola. Et j'avais pas fait le rapprochement avec les Américains, le capitalisme. Bruno lisant ses lectures de chevet que j'arrivais absolument pas. Ça me tombait des mains, moi, le monde, comment on appelle ça, le monde...
Diplomatique.
Le monde diplomatique. Après, ils me donnaient des articles d'Ignacio Ramonet, fallait que je lise, et puis je j'y arrivais pas. Et je me reprochais, je dis, pourquoi j'y arrive pas? Par contre, je lisais les philosophes politiques, Rousseau, Spinoza, j'essayais de lire tout ça. Rousseau, j'ai une sorte de culte de Rousseau, toujours d'ailleurs.
Vous lisiez Bourdieu?
Alors, je l'ai lu à partir du moment où j'ai rencontré Emmanuel, donc en Cagne.
Emmanuel Bourdieu, donc.
Alors, en Cagne, évidemment, on va pas parler de ça, mais toutes les découvertes intellectuelles, ce sont des tsunamis intellectuels qui m'arrivent. Je me rappelle, j'arrive le premier jour à Fénelon et on me dit, j'entends parler de Barthes. Je me dis, Barthes, mais de qui est Barthes? Je savais même pas comment l'orthographier. Roland Barthes. Je n'avais pas entendu parler en Hippocagne. Et donc, je me mets à assumer à lire Roland Barthes, complètement fasciné. Lire Wittgenstein.
Vous découvrez la sociologie.
Et je découvre la sociologie.
Et est-ce que vous prenez de fait conscience de votre milieu à vous?
Bourdieu, en fait, ça m'a libéré de... La conscience de certains déterminismes sociaux m'a permis de prendre une distance vis-à-vis de ces déterminismes. C'est un des bienfaits de la connaissance sociologique. On se sent moins écrasé. Donc, certains idéaux classiques, je les sens tout à fait issus de ma classe sociale et de la façon dont, à Versailles, j'avais vécu la bourgeoisie de mes parents comme un lieu protégé, privilégié, immémorial. Donc, à Versailles, l'histoire ne passe pas. Il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est une ville sans histoire. Il n'y a que de la grande histoire monumentale qui est dans les pierres du château de Versailles. Tout ce qui... D'ailleurs, parce que Versailles aussi, en 70, après, c'était une ville qui a été honnie. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que ma famille avait réussi à faire fortune, mais avait réussi à racheter des immeubles. Parce que la ville de Versailles, après la guerre de 70, a périclité. Et à la fin du 19e siècle, on trouvait à Versailles des appartements magnifiques, dont ceux dans lesquels j'ai grandi, pour rien. Mmh. Pour très peu d'argent, parce que ma famille, en fait, n'était pas une famille, c'était des petits commerçants qui s'étaient enrichis à ce moment-là. Il y avait des boulangers dans la famille, c'était vraiment des petits commerçants, des petits artisans. Ils ont fait des investissements au moment où la ville avait périclité un peu. Ben oui, cette connaissance sociologique, et après d'ailleurs, c'est comme la découverte de la psychanalyse, en fait. Quand on découvre la psychanalyse de la sociologie, on s'en met, on pratique une sociologie un peu de comptoir, une psychanalyse de comptoir, mais ça ouvre des horizons immenses.
Et ça, ce sont des outils que vous utilisez quand vous êtes apprenti acteur, quand vous êtes au conservatoire?
En lisant La Distinction, notamment, j'adorais la description de la vie des petits bourgeois.
La Distinction, qui est un ouvrage de Pierre Bourdieu.
Pierre Bourdieu, et il fait des descriptifs 70. Très très fins, très subtils, de la vie d'un repas chez des petits bourgeois. Et je me disais, quand on joue La Biche, tout ce théâtre qui met en scène la petite bourgeoisie, mais il faut lire ça. Ce sont en fait des livres faits pour des metteurs en scène. Et je sais que d'ailleurs Jean-Pierre Vincent en lisait. D'ailleurs, je n'ai parlé de Bourdieu avec Thomas Ostermeyer, mm-hmm. pour qui c'est un auteur de chevet.
Avec lequel vous avez fait la Nuit des Rois, la Comédie Française.
La photographie aussi, Bourdieu. J'avais découvert ce phénomène pointé par Bourdieu. Plus on est dans l'échelle, plus on est petit dans l'échelle sociale, et plus on va se photographier petit devant les monuments. Et j'ai regardé derrière des photos que prenaient pas ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, qui se vivait comme une toute petite bourgeoise, quand elle est minuscule à côté de la Tour Eiffel, ou à côté du palais du Trocadéro. Alors que ma grand-mère, se faisant photographier devant le Trocadéro, c'est ma grand-mère.
Votre grand-mère maternelle?
Ma grand-mère maternelle, elle occupe le cadre. Tandis que mes grands-parents, ils sont minuscules. Des remarques comme ça, cette façon de se voir, développe un sens, un appétit en fait pour apprécier le cadre sociologique d'un personnage.
Et ça, vous le travaillez beaucoup avec Jean-Pierre Vincent et vos camarades.
Ça coïncide, c'est vrai. Parce que je connais bien à ce moment-là... Quand je suis chez Jean-Pierre Vincent, je suis sorti de Cagnes, et donc je suis assez familier de l'univers de Bourdieu. Mais j'essaie de... À ce moment-là, au conservatoire, j'ai compris que fallait pas faire le cuistre, le pédant. Donc, les références littéraires, philosophiques...
Vous les gardez pour
vous? Je reste un peu... J'essaie de pas la ramener, quoi, tout simplement.
Qui sont les camarades de promotion qui vous impressionnent?
Eric Elmosnino, Patrick Pinault, Jérôme Kircher, Philippe Huchan. J'en ai beaucoup, en fait. Marianne Medeiros, Valérie Dréville, Anne Brochet.
Vous répétez le
Nathalie Cerda.
J'ai beaucoup de conservatoire avec Anne Brochet, je crois.
Oui, on était au cours Florent ensemble. Elle avait 16 ans. Jeune fille toute timide dans la vie et un fauve sur la scène. Et qui occupe la scène d'une manière incroyable, qui nous fait travailler d'ailleurs. Moi, Fabien Orsier, Alain Fromager, on préparait le... Fromager avait plus l'âge de passer le conservatoire, il nous avait préparé au conservatoire, et elle nous tractait en fait.
Mais à vous entendre, on a l'impression qu'ils vous impressionnent tous en fait, la liste est...
Et c'est long, oui. C'est toujours ce goût de l'admiration et ce sentiment d'être un peu en retard, moi. J'ai le sentiment d'être lesté par mon passé intellectuel à ce moment-là.
En retard parce que vous avez eu envie plus tard?
Oui, parce que tout devient concret beaucoup plus tard. Eux, par exemple, Anne Brochet, elle a 16 ans quand elle est au cours Florent, et être actrice, c'est pas simplement un idéal. C'est son projet. Ça doit s'incarner ici et maintenant. Et donc, entrer à l'école, travailler, etc. Les étapes, elle les a très clairement en tête. Alors que moi, même l'idée d'entrer, si mon ami m'avait pas parlé du cours Florent, de la classe libre, j'aurais pas mis les pieds. Donc j'aurais sans doute pas eu le conservatoire, etc. Peut-être que sans eux, je serais aujourd'hui un professeur qui continue à faire du travail avec ses élèves. Je serais peut-être très heureux comme ça. Mais je pense que toutes ces personnes-là m'ont permis de vraiment trouver des voies concrètes pour avancer.
Mais vous avez compris plus tard que votre chemin singulier par rapport à eux, finalement, valait ce qu'il valait, tout autant que le leur.
Oui, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas comme ça. En fait, les multiples hésitations faisaient que j'aimais bien. J'avais une propension à la mélancolie, mais une sorte de mélancolie pas dépressive, une mélancolie dirigée,
romantique,
écrite aussi, et qui trouvait son reflet dans les livres. C'est peu après que j'ai découvert ce que c'était que la mélancolie dépressive. C'est un autre monde. Moi, c'était la mélancolie, la procrastination, voilà. Ce côté un peu délicat.
Après ces années de conservatoire, Denis Podalydès, vous quittez l'école, la matrice, pour entrer dans le monde du travail. Et vous vous engagez dans ce métier avec une certaine appréhension, passer du statut d'élève à celui d'acteur. Quel artiste allez-vous devenir? Quelles sont les rencontres importantes que vous allez faire? Nous en parlerons demain, dans un troisième épisode de votre À Voix Nue. Bonne soirée, Denis Podalydès. Et bonne soirée à vous qui nous écoutez, vous êtes sur France Culture.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béline Dola avec Denis Podalydès. À Voix Nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.